RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
Et à 18h10 pour la dernière fois de la semaine, nous retrouvons Alexis Claudretz pour le 18-19.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le magazine des vacances de Noël ce vendredi soir sur RCF France-Ardenne, RCF Champagne-Ardenne en DAB+. Fabrice vous a tout dit, ou presque, comme à son habitude, déjà le dernier d'une courte semaine entamée mardi où l'on donnera davantage la parole aux jeunes à travers plusieurs thématiques ce vendredi soir. L'écologie vue par Gaïa et Gabin sera l'objet de la chronique Parole de jeunes de Jeanne Boudre. L'engagement associatif en 240 secondes sera le sujet proposé par Suzanne Josse, et un focus sur le réalisateur Wes Anderson, c'est la proposition de Lise Renard ce soir. Évidemment, le vendredi, il y a ceux sans qui cette émission serait moins pimentée. Je veux bien sûr parler de notre chroniqueur de l'actualité, Jacques Cohen, qui nous parlera de l'intelligence artificielle et qui imaginera ce qu'aurait donné ChatGPT en 1938. On le retrouve d'ici quelques secondes. Parmi les fidèles du vendredi, on retrouve aussi Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, pour poser son regard sur l'actualité de l'Église dans notre diocèse et à travers le monde. Puis ce soir, on vous a prévu un petit plus avec un mot décortiqué par Robert Reverger, le mot justice. Pour savoir ce qu'il se cache derrière, il va falloir patienter, parce que c'est bien Jacques Cohen qui, dans ce magazine Marathon, prend le premier relais. Il est avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous avez décidé aujourd'hui, professeur, de parler d'intelligence artificielle avant même de parler de tout ce que cela peut traduire. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est quoi en 2023-2024 même ?
Alors l'intelligence artificielle, il faudrait la mettre au pluriel parce qu'il y a des choses extrêmement différentes. Tout d'abord, et depuis plus de 25 ans, il y a ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle algorithmique en termes savants, ou déductive. C'est-à-dire que, à partir de constatations, le système joue des règles et répond des éléments en fonction de ces règles. C'est par exemple le cas pour les électrocardiogrammes depuis très très longtemps. Ça commence à être le cas aussi pour des lectures de radiologie. Ce genre de système ne pose, j'allais dire, aucun problème, si ce n'est son réglage. C'est-à-dire qu'il utilise des lois qu'on lui a prédéfinies et il les applique règle après règle. Le point faible, c'est qu'il ne sait pas tricher. Donc s'il y a une zone grise, le système va répondre qu'il ne sait pas. Plutôt, il va donner un doute. Et si on a fait le réglage pour lui dire chaque fois qu'il y a un doute, tu dis que c'est peut-être ça, les utilisateurs humains finissent par en avoir marre, si on peut dire, parce que le système voit des fractures partout, ou voit des ischémies latérales plus ou moins chroniques partout. Le problème de ce genre de choses, c'est qu'il faut qu'il soit réglé correctement pour pouvoir avoir un rôle utile. Mais néanmoins, c'est très très intéressant, et on s'en sert tous les jours. Et on va s'en servir de plus en plus. Alors, la deuxième catégorie d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle auto-éducative, deep learning en anglais. C'est-à-dire qu'elle apprend ses erreurs, mais à condition qu'on lui dise quand elle s'est trompée. Donc il reste un humain dans la boucle, ou éventuellement une autre intelligence artificielle, pour lui dire que là, elle s'est plantée, et qu'il faut donc qu'elle améliore son interprétation. C'est important parce que beaucoup de systèmes de saisie de données comportent, j'allais dire, du bruit de fond. Et il faut donc éduquer le système expert à pouvoir s'affranchir de ce bruit de fond, ou savoir jusqu'où il peut se mouiller, ou doit revenir en arrière si le bruit de fond est trop important. Mais c'est un système relativement lourd parce qu'il doit apprendre lui-même. Il ressemble un peu, lui, beaucoup plus à une intelligence humaine, mais d'ailleurs, finalement, il ne fonctionne que parce qu'il y a une intelligence humaine pour exécuter la boucle de rétroaction, le feedback en anglais. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, et c'est moins employé parce que pour faire cette boucle, il faut du travail. C'est pas un truc qui tourne tout seul. Et alors, la troisième catégorie que l'on voit maintenant, et qui pose un grand nombre de soucis, c'est l'intelligence artificielle dite générative, c'est-à-dire plus célèbre étant ChatGPT. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de pouvoir, à partir d'une base de données, extraire des éléments dedans pour donner des réponses qui sont associatives, qui sont des assemblages. Et puisqu'on peut donner à la machine une immense base de données, elle peut retrouver des trucs qui sont au-delà de ce que la mémoire humaine ou l'intelligence humaine est capable de faire en la matière. Mais Il y a deux énormes défauts à l'intelligence artificielle générative. D'une part, elle est souvent réglée pour sortir de l'eau tiède, c'est-à-dire que les opinions tranchées, ce n'est pas sa façon de voir. Et d'autre part, elle est figée à sa base de données. Et on va voir dans un instant que si la base de données change, tout change. Alors, on voit déjà des choses assez inquiétantes, parce que sur les réseaux sociaux, quelqu'un s'est amusé à créer un site qui pioche de l'actu et génère donc des articles, etc., etc. Et puis, il s'agissait de voir jusqu'où il inventerait des nouvelles, jusqu'où il inventerait des personnages, etc. Et je peux vous le dire tout de suite, il invente très bien Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire qu'il sait à quoi ressemble Monsieur ou Madame, etc., dans ses goûts, dans ceci, et il va en générer autant qu'il en veut, ou autant que vous en voulez. Et où ça devient un petit peu inquiétant, c'est que comme il fait ça sur les réseaux, eh bien, il est soumis au contrôle des réseaux. Mais le contrôle des réseaux, il est généré par de l'intelligence artificielle aussi. C'est-à-dire que c'est un robot qui contrôle un robot. Et à ce moment-là, on peut se situer dans un cas de figure où les humains deviennent les vaches qui regardent passer les trains. C'est-à-dire que tout se passe entre robots, et donc, ou bien on quitte ce réseau, mais s'il est justement bien conçu pour attirer monsieur et madame tout le monde, eh bien, les gens restent comme des vaches regardant des trains, à voir passer des informations qui n'existent pas, mais qui sont tout à fait plausibles, et qui sont contrôlées comme plausibles par une autre intelligence artificielle. Donc on est dans un système extrêmement dangereux de génération d'un monde illusoire.
Est-ce que Jacques Cohen, ça veut dire qu'à terme, à très long terme, les intelligences artificielles et les robots pourraient peut-être un jour prendre le contrôle, j'allais dire ?
Là, vous êtes dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais là, on ne verra peut-être pas le temps aujourd'hui, mais Hal introduit quelque chose d'inattendu. Il a peur de la mort. Et donc, il commence à avoir des caractères humains que ces intelligences artificielles n'ont pas. Alors, seront-ils un jour capables d'en arriver là ? Je ne le sais pas. Mais le point le plus important, je vous ai dit, c'est que cette intelligence artificielle générative, elle génère des nouveautés à partir de vieilleries. C'est-à-dire que sa base de données est considérée comme juste, en noir et blanc. Et donc, il associe ce système, mais il est incapable de remise en cause. Tant qu'un document est dans la base, il est vrai. Si on le vire de la base, il pourrait ne plus l'être, mais ça demande une intervention humaine qui n'existe pas, ou un ordinateur, ou une autre intelligence qui fait des changements selon le contexte, exactement comme dans 1984, où pour le ministère de la Vérité, on voit changer les affichages quand les alliances changent. Et puis on balance des documents qui disparaissent parce qu'il n'y a plus qu'une vérité du moment et qui est dictée d'en haut, et ça, une intelligence artificielle serait dictée d'en haut. Mais le grand problème, c'est au contraire que les éléments générés sont ceux qui sont figés parce qu'il y a dans la base qui est supposée intangible, définitive et totalement vraie. Or, l'intelligence humaine et les connaissances humaines progressent par rupture, par changement de point de vue, par renversement de paradigme, c'est-à-dire ce que ce genre de choses est incapable de faire. Et alors je voulais donner comme exemple, je crois qu'on est dans les temps, je voulais donner comme exemple, imaginez ce qu'aurait répondu ChatGPT s'il avait été nazi, et si on était en 1938.
On vous laisse nous dire, Jacques Cohen.
Eh bien, il aurait consulté tous les documents, et à la question « est-ce que les juifs sont nuisibles ?» ou « est-ce qu'il faut les éliminer ?» qu'est-ce qu'il aurait répondu ? Eh bien, selon le Völkischer Beobachter, comme journal de référence, et selon le protocole des sages de Sion, ils veulent gouverner le monde, ils tiennent la finance et l'état de pays étrangers. Chez nous, puisque j'ai choisi un système allemand, ils viennent d'assassiner le conseiller d'ambassade à Paris, von Rath, qui a conduit à une indignation de la population allemande, c'est la nuit de cristal, et en fonction de cela, il est effectivement à étudier de quelle façon il ne pourrait plus recommencer. Et la solution la plus simple pour qu'il ne recommence pas, c'est de les éliminer. Donc ce ChatGPT nazi aurait répondu cela, parce qu'il s'appuie sur des documents et sur des consensus. Il aurait pu donner d'ailleurs un sondage disant que l'essentiel de la population allemande s'oppose aux juifs, puisqu'il y a eu un vaste mouvement populaire suite à l'assassinat de von Rath et que la nuit de cristal l'a exprimé en détruisant je ne sais combien de synagogues. Là, il donnerait l'état de nombre et de magasins, il donnerait l'état de nombre, témoignant de l'indignation du peuple allemand. J'ai pris un exemple en Allemagne, mais je pense que l'antisémitisme étant à l'époque fort répandu, on aurait très bien pu lui faire donner une réponse mondiale en gommant certains aspects allemands et en montrant que les juifs étaient extrêmement dangereux sur toute la planète. Donc vous voyez, ChatGPT, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire que la base de données est juste, elle ne sera jamais remise en cause et elle génère des choses qui la renforcent.
Jacques Cohen, après cet exemple et cet exposé, vous disiez tout à l'heure que les intelligences artificielles étaient plutôt tièdes en termes d'opinion. Vous, vous êtes plutôt opinion tranchée. Finalement, l'intelligence artificielle, pour ou contre, professeur ?
Je ne répondrai pas pour ou contre. Comme je l'ai dit, qu'il y avait trois catégories d'intelligence artificielle. Deux sont excellentes, une est dangereuse. Et même celle-là peut être utile à condition d'en connaître les limites et de faire en sorte qu'on ne rentre pas dans un monde, comme je vous ai cité, où des robots contrôlent des robots et où les hommes sont exclus.
Merci Jacques Cohen et à très bientôt.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Dans ce magazine local, ce vendredi soir, on retrouve désormais Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes et président de la Conférence des évêques de France. Il était l'invité de Jean-Pierre Benoît ce matin sur RCF France-Ardennes.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours, vous aviez déjà adressé vos vœux aux auditeurs de RCF, mais c'est l'occasion sans doute ce matin de les renouveler d'une certaine façon pour tous.
Oui, bah écoutez, c'est la saison où il est toujours bon de se souhaiter une bonne et sainte année. Il me semble que le plus important peut-être à demander, c'est le goût de vivre et d'aimer vivre. Je trouve que l'année dernière a fini avec beaucoup d'inquiétudes. Nous vivons dans un climat un peu délétère, avec beaucoup d'évocations de la fin de vie, avec évocation de la crise climatique, avec toutes sortes de motifs d'inquiétude. Et cependant, il nous faut nous réjouir d'entrer dans une nouvelle année, d'essayer de construire quelque chose et construire de nouvelles relations et ou approfondir les relations que nous avons aujourd'hui pour créer des liens entre nous. Parce que notre espérance à nous, chrétiens, c'est que tous ces liens que nous nouons ici-bas, ils anticipent, ils préparent la grande communion entre tous les hommes et avec Dieu, dont nous vivrons éternellement.
Monseigneur, dans l'actualité, au-delà de ses vœux, il y a des inondations actuellement dans le département des Ardennes. Selon le journal L'Ardennais de ce matin, la crue a sévi fort dans la vallée de l'Assemois, en particulier du côté de Haute-Rivière et de Tillet, mais aussi autour de Warc, il y a quelques inondations, Boulzicourt. Alors, votre réaction ce matin, Monseigneur ?
Ma réaction est d'abord de compassion, disons, avec tous ceux qui subissent les effets de ces crues, que ce soit chez nous dans les Ardennes, que ce soit dans le Pas-de-Calais ou ailleurs, parce que c'est terrible de voir l'eau arriver chez soi, elle détruit tout, elle abîme tout, et c'est quand même, ça peut être angoissant pour certains. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu leur travail, je pense aux agriculteurs qui, dans le Pas-de-Calais, qui subissent ces inondations pour la deuxième fois dans une seule saison. Je pense qu'il y a beaucoup de pertes et donc beaucoup d'inquiétude aussi. Alors voilà, puissions-nous montrer de la solidarité, de l'amitié, de l'entraide. Il me semble que ça a été la force de nos régions, toujours, dans les moments difficiles, de manifester de l'entraide les uns avec les autres. C'est ce qui permet de sortir de situations difficiles et d'approfondir, encore une fois, les liens qui nous unissent les uns avec les autres.
On aura l'occasion, bien sûr, Monseigneur, de suivre ce qui se passe au niveau de la vallée de l'Assemois, de la vallée de la Meuse. Des faibles pluies sont attendues et surtout, il y aura du gel à partir de dimanche. Et ce gel qui peut permettre des températures, hélas, pour ceux qui sont un peu frileux, de moins 6 à moins 7, devrait atténuer peut-être cette montée. Monseigneur, dans l'actualité, on est aujourd'hui en direct avec vous, en ce vendredi 5 janvier. Bien entendu, on va évoquer l'épiphanie dans la liturgie, le sens de l'épiphanie. L'épiphanie, c'est ce dimanche célébré dans les paroisses du diocèse de Reims et des Ardennes et ailleurs.
Voilà, l'épiphanie, c'est un mot grec qui signifie la manifestation. C'est un peu la célébration du mystère de Noël qui se poursuit. Dieu vient dans notre chair. Dieu lui-même est venu dans notre chair, il est venu avec notre condition humaine, il se donne à voir. Alors, dans le dimanche de Tiffany, nous vénérons en particulier, nous adorons en particulier ce mystère de la venue des mages qui montent à portée universelle, de la venue de Jésus. Il est venu comme un enfant juif, mais il est venu pour tous les hommes. Et s'il est venu comme un enfant d'Israël, c'est pour pouvoir toucher tous les hommes et s'adresser à tous les hommes, et pour pouvoir sauver, s'unir et sauver tous les hommes en ouvrant une issue à notre vie humaine qui n'est plus barrée par la mort, mais qui peut ouvrir à la vie en plénitude. Et la venue de ces mystérieux mages, qui offrent l'or, l'encens et la myrrhe, montre que toutes les nations, toutes les cultures, donc toutes les histoires humaines, peuvent s'approcher de cet enfant, lui apporter ce qu'elles ont de meilleur et en recevoir une plénitude nouvelle.
Monseigneur, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur tout cela dans nos éditions, mais je reviens un peu sur les vœux, parce que il y a les vœux que vous adressez aux auditeurs et puis à ceux que vous allez adresser aux uns et aux autres partout, un peu partout, vous rencontrez des personnes. Et c'est vrai que les vœux, c'est l'occasion de retrouver des personnes, de les rencontrer, de leur souhaiter le meilleur pour eux, leurs proches, et puis d'avoir un contact direct. C'est ce qui va se passer pour vous, Monseigneur.
Voilà, nous avons essayé à Charleville-Mézières, et puis j'espère à Reims, de pouvoir adresser des vœux à Charleville-Mézières bientôt. Et puis alors à Reims, nous essaierons de le faire de manière interreligieuse. Mais le contexte d'aujourd'hui n'est pas forcément facile. En tout cas, oui, je pense que les vœux sont une belle manière, un beau moment pour exprimer tous les liens qui nous rassemblent, ou qui nous tiennent les uns avec les autres. Et essayer d'approfondir ces liens. Et puis les vœux sont l'occasion de remercier aussi les autorités, tous ceux qui ont une responsabilité dans notre région ou pour notre pays, puisque lundi j'aurai l'occasion d'aller au vœu à l'Élysée. C'est le président qui parle, mais c'est aussi pour nous l'occasion d'exprimer notre gratitude à l'égard de tous ceux qui exercent le travail parfois ingrat des responsabilités nationales ou locales. Il est bon de temps en temps de se dire merci, de regarder l'année qui est devant nous avec les beaux événements qui s'annoncent, les événements plus difficiles que l'on peut craindre, et d'essayer de se serrer les coudes en quelque sorte, ou profiter des beaux événements pour renforcer les liens qui existent entre nous.
Et puis la semaine prochaine, le conseil permanent à la conférence des évêques de France, ça c'est un rendez-vous quelque peu traditionnel avec votre programme de la semaine prochaine.
C'est un rendez-vous de tous les mois, hein. Le conseil permanent c'est tous les mois, là il faut bien essayer de suivre l'actualité de l'Église et l'actualité du monde. Donc effectivement j'ai cette réunion de travail lundi, mardi et mercredi, qui est un moment important. Voilà, je voulais peut-être revenir encore une fois sur le mystère d'Épiphanie. Hein, c'est que un des aspects importants du mystère d'Épiphanie, c'est donc toutes les nations qui se rassemblent, c'est notre espérance. Il y aura dimanche à Saint-Remy à Reims une messe pour les nations qui prendra une couleur un peu particulière. En manifestant la présence de toutes sortes de cultures dans nos assemblées, dans notre assemblée eucharistique. Nous savons bien que dans nos assemblées eucharistiques le dimanche, il y a des gens qui viennent de toutes sortes de pays, de toutes sortes de cultures. Nous sommes rassemblés dans une même foi. Et nous vivons comme les prémices de l'unité de toutes les nations. La diversité des hommes n'est pas faite pour la guerre. Elle n'est pas faite pour nous opposer, mais elle est faite pour enrichir notre compréhension de Dieu et notre compréhension les uns des autres, notre compréhension de ce que nous sommes.
Monseigneur, c'est bientôt l'heure de nous quitter. On peut annoncer aussi que vous allez sur le terrain tout prochainement encore du côté de Challerange pour rencontrer la filière laitière dans le département des Ardennes. Ça fait partie de votre rencontre de terrain, Monseigneur.
Voilà, ce sera jeudi prochain. C'est l'occasion pour moi de mieux comprendre un peu ce que vivent les uns et les autres dans notre département, de rencontrer davantage de personnes et de manifester à tous que toutes nos existences humaines, encore une fois, ont leur beauté et prépare la grande Merci. Communion éternelle que nous espérons tous.
Merci Monseigneur, on vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute.
Merci Jean-Pierre. Merci.
Très très bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
On parle engagement associatif, désormais une thématique importante pour nous à RCF, qui nous-mêmes sommes une association d'ailleurs. Suzanne Joss, étudiante à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, nous parle de l'engagement associatif chez les jeunes et chez les étudiants en 240 secondes.
En 2018, 36% d'entre eux déclaraient être adhérents à une association. Et ce chiffre continue à être stable. Le premier engagement des jeunes est celui en faveur de l'écologie, mais d'autres causes comme le sport ou l'humanitaire leur tiennent aussi à cœur. Aujourd'hui, nous allons discuter pendant 240 secondes avec Maëlys Lemayou, lycéenne et présidente de l'association Interact. Vous êtes prêts ? Top chrono ! Bonjour Maëlys !
Bonjour.
Vous avez 17 ans, vous êtes notre première invitée et vous êtes en terminale au lycée Jean Jaurès à Reims. Quel est le but de votre association ? Elle s'appelle Interact, c'est
oui,
bien
c'est ça,
ça.
Comme le dit si bien la devise du Rotary, c'est servir d'abord. Donc on fait des actions dans le but de soutenir des personnes défavorisées, soutenir des enfants malades ou encore protéger l'environnement. Mais on accueille aussi les étudiants d'échange du Rotary dans notre club, dans le but de favoriser l'amitié entre les peuples.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager à un si jeune âge ?
J'ai toujours vu ma mère s'engager dans différentes associations, donc naturellement, je la suivais par exemple au Secours catholique. Et les causes humanitaires ont toujours été des valeurs ancrées en moi. J'ai donc décidé de m'engager à Interact après avoir vu différents amis s'engager.
Et alors, est-ce que ça vous prend du temps, cette association ? Combien de temps par semaine, combien d'heures est-ce que vous consacrez à l'association ?
Je ne sais pas si je pourrais vraiment donner un chiffre exact parce que ça dépend réellement des semaines et aussi des actions. Il y a des actions qui vont être très chronophages et d'autres dont on va pouvoir s'occuper plus rapidement. Mais en général, je dirais peut-être une demi-heure tous les jours.
Combien y a-t-il de membres dans l'association ?
On est une quarantaine de membres cette année.
D'accord, et donc c'est vous qui gérez les 40 membres, c'est bien ça ?
Oui.
Comme je dis tout à l'heure, vous êtes en terminale, c'est une année charnière, c'est l'année du bac, l'année de l'orientation. Comment est-ce que vous faites pour concilier les études et l'engagement associatif ?
Alors les horaires d'Interact sont faits en fonction des emplois du temps de chacun des membres. On arrive à s'arranger et à trouver des accords tous ensemble. Au niveau des actions, elles s'effectuent surtout le week-end. Et pour ce qui est du rôle de présidente et l'organisation derrière tout cela, j'essaie de répartir tout ça tout au long de la semaine.
Comme je le disais dans l'intro, la première source d'inquiétude chez les jeunes, c'est l'écologie. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent pour faire cette cause. Est-ce que l'association Interact fait des actions ou a des projets en faveur du développement durable ?
Bien sûr, nous avions déjà fait des actions. On essaie de redonner une vie à des objets dont on ne se sert plus. Par exemple, on avait récolté des livres avec l'association ATD Quart Monde pour ensuite les redistribuer à des enfants défavorisés. On avait aussi fait ça avec des jouets pour le Secours populaire. Et on a comme projet pour 2024 de faire une marche pour ramasser les déchets à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.
Très bien. Et parmi toutes ces actions, est-ce qu'il y en a une pour laquelle vous êtes la plus fière ? De quelle action êtes-vous la plus fière, Maëlys ?
J'ai toujours été très fière d'Interact parce qu'on arrive à tenir des actions comme les dons du sang sur plusieurs années, enfin depuis 2019. Mais une des actions qui m'a beaucoup marquée, c'était l'année dernière quand on a fabriqué des bijoux, enfin des bracelets nous-mêmes, qu'on les a ensuite vendus sur le marché du Boulingrin et que tous les fonds ont été reversés à la Maison des Femmes. Donc on a réussi à récolter plusieurs centaines d'euros.
Qu'est-ce que ces expériences, elles vous ont apporté humainement ?
Elles m'ont apporté donc les valeurs que porte Interact, c'est-à-dire réussir à travailler ensemble, s'ouvrir sur le monde, ça consolide des liens. Enfin, ça nous met déjà un pied dans le monde professionnel. Ça m'a énormément apporté.
Donc en plus de vous apporter humainement, on peut dire que ça sert aussi à votre orientation finalement.
Oui, bien sûr.
Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Maëlys Lemayou. Bravo pour votre engagement. Et j'espère que cette émission motivera nos auditeurs à adhérer à une association. Voilà, 240 secondes, c'est fini. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Merci Suzanne, que l'on retrouve dans l'émission 240 secondes, une nouvelle émission dans votre grille RCF en Sardaigne.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Il y a des séries qui commencent, d'autres qui s'arrêtent en cette période de fête. Claude Ruiz nous a parlé de beaucoup de choses, mais pas encore des monuments. C'est pour ça qu'il est avec nous désormais une ultime fois. Claude, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous nous baladez, mais quand même avec un sens logique. Après les sites naturels et les villes empreintes de religieux, nous allons terminer cette série en évoquant des monuments repères, Claude Ruiz.
Oui, alors je ne sais pas si c'est logique, mais c'est au moins pensé un petit peu. On essaye de cadrer un petit peu ces espaces.
C'est construit comme un cours, comme oui, si vous étiez un maître de conférence en géographie.
Non, mais je suis géographe, donc je reste dans les lieux. Hein. J'essaye de pas m'écarter. Après, c'est pas ma spécialité. Donc, en effet, ce sont souvent dans les expressions religieuses, puisqu'on retrouve, hein, on l'a dit, en ces moments de fête, ce sont souvent des bâtiments. Les bâtiments, c'est ce qu'on se rappelle aussi. Pas seulement le Mont Olympe, pas seulement qu'il y a une ville, Kyoto, une ville religieuse au Pérou, hein, d'accord, du côté de Cusco, mais on est dans quelque chose où c'est plus étroit, plus petit, plus remarquable la plupart du temps, donc on en connaît quelques-uns, ce sont des bâtiments. Les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, ce sont les repères de la spiritualité. Alors certaines ont, je dirais, sont restées un petit peu cachées hein, pour la spiritualité, d'autres au contraire sont remarquables à la fois au sein de la société qui les a mis en avant, mais aussi au niveau international pour ce qu'elles se représentent. Pour les catholiques, nous pouvons donner quelques exemples. Alors, je ne vais pas en citer parce qu'ils sont des dizaines et des dizaines ou des centaines. Mais le pèlerinage, par exemple, à Saint-Jacques de Compostelle, même si c'est le chemin qui est l'essentiel, qui va être l'important dans le cheminement religieux, il se termine à la cathédrale de Santiago. Et donc, Santiago de Compostelle, qui abrite aujourd'hui la relique du Saint, elle est d'une exubérance un petit peu surprenante. On a une chapelle d'origine qui a été délimitée aux alentours de l'an 1000, un petit peu avant, et puis il y a eu des nouvelles constructions au XIe siècle, il y a eu des superpositions d'architecture romane, gothique, un baroque époustouflant sur la façade. Donc là, on a, si vous voulez, une sorte de construction, et en plus, le monument, avec le temps, il s'enrichit, se densifie parfois, et il joue un rôle important, même à l'échelle internationale.
Est-ce que l'on retrouve des monuments repères aussi dans le protestantisme, par exemple, Claude?
Oui, l'exemple similaire pour la fonction. Alors, bien entendu, chaque religion ayant un rapport au sacré un peu différent, il est évident que l'expression qu'elle va avoir sur le plan du terrain et des monuments sera un petit peu différente. Pour le protestantisme, on pourrait citer l'église du château de Wittenberg, donc en Allemagne. C'est le lieu, donc, je dirais, de l'expression de la réflexion protestante, de l'ouverture, avec surtout quand même de très très lourdes portes de bronze, comme si on avait, je dirais, une sorte de chemin définitif. Alors, Wittenberg, où ça se trouve, c'est au nord de Leipzig, c'est-à-dire en Saxe, hein, en gros, dans le nord de l'Allemagne, on va dire nord-est de l'Allemagne. Martin Luther, donc, a placardé sa lettre, la première lettre, donc, d'expression de refus, en réalité, sur ce portail historique, qui, à l'époque, était en bois. Hein. Maintenant, c'est en bronze, et ça marque aussi la puissance de la religion. Mais on était dans un cadre historique. L'intérieur de l'église est d'une grande simplicité, donc, vous le voyez, ça correspond aussi à une sorte de volonté, en fin de compte, hein, de ce protestantisme, de montrer, d'avoir une image un peu particulière. Ça renferme une pierre tombale avec une plaque, sigille Martin Luther, docteur en théologie. Donc vous voyez, on s'aperçoit que les monuments, même certains très importants, ils sont une illustration de la réflexion philosophique ou religieuse.
Ce lieu est-il lui aussi valorisé?
Oui, c'est un lieu relativement important. En réalité, il s'appelait Martin Luther. Hein, il y a eu un changement de nom. Non, L-U-D-E-R, et non pas Luther au départ. Martin Luther est inscrit en 1508, donc à l'école monastique de Wittenberg, et c'est là où se développent ses pensées réformistes, si vous voulez. Donc, c'est là où il va mettre en place un combat contre les indulgences qui étaient courantes, on va dire l'achat de sacrements, quand on avait besoin de sacrements. Et en 1517, Luther, toujours, publie ses 95 thèses, et c'est le début d'un conflit, d'une excommunication. C'est là où il change de nom. Hein, il passe de Luther à Luther, venant du grec eleutheros, liberté. Donc vous voyez, il y a aussi, on voit tous les éléments qui se mettent en place. Et je vous rappelle que la Saxe, c'est l'Europe du Nord. Là aussi, le protestantisme va se développer géographiquement en fonction des sociétés qu'il rencontre. Alors le bâtiment, lui, il a connu un incendie. Il est en 1760, il a été reconstruit, restauré. Et les portes de bronze, elles datent de 1858. Donc vous voyez, il y a un élément de la durée dans lequel on agit, et puis puis il y a d'autres réformateurs qui étaient dans la zone, comme Philippe Mélenchon, qui est enterré dans cette église. Donc de ce fait, c'est un haut lieu, j'allais dire, pas forcément malgré lui, mais c'est quelque chose qui est un peu hors norme.
Un lieu sacré peut-il être utilisé par plusieurs religions différentes, Claude ?
Oui, même, j'allais dire, un des plus beaux du monde. On cite souvent, alors les mélanges ne se font pas, hein, c'est pas 10 religions sur un même espace. C'est souvent la rencontre de 2 ou 3. C'est le cas, par exemple, de la cathédrale de Cordoue, qui a été développée et construite à l'intérieur d'une mosquée. Hein, puisque là, le bâtiment étant tellement important, il y a un problème d'investissement. Hein, donc vous le voyez, et de volonté de reprendre, en fin de compte, un lieu sacré. Donc le lieu, nombreux jardins. On cite toujours, vous savez, les orangers, les oliviers de cet environnement de la cathédrale de Cordoue. En réalité, il y a eu la conquête arabe, donc au 8e siècle, la construction de la grande mosquée, 11 nefs. Donc c'est grandiose, et donc bien entendu, ensuite, on a eu une volonté de réutiliser ce site.
Comment en est-on arrivé à avoir une église dans une mosquée ?
C'est la reprise du territoire espagnol, comme je le disais, par Ferdinand III en 1236. Et il y a la reprise par le christianisme, et au XVIe siècle, le roi Charles Ier autorise la construction d'une chapelle. Mais au bout de 3 siècles, en réalité, vous avez une église à l'intérieur de la mosquée.
Ces marqueurs de spiritualité lieu de manifestation, est-ce qu'on les retrouve partout à travers le monde, l'Europe? Dites-nous tout, Claude.
Oui, on peut avoir des réhabilitations, c'est ça, c'est pour montrer que l'histoire est à la fois très diverse, mais aussi très similaire pour des sociétés qui ont les mêmes problèmes et qui les résolvent souvent de la même façon. Donc il y a eu, par exemple, au Japon, on est passé dans le cas d'une réhabilitation pratiquement de tous les temples. Mais je vous rappelle qu'au Japon, les constructions sont en bois. Donc comme elles périssent très vite, le principe des Japonais, c'est de les reconstruire à l'identique. Donc vous voyez, il y a une pérennité là, du fait même du système. Et bien entendu, les marqueurs à Reims, on est bien placé pour rentrer un petit peu dans ce cadre-là aussi de la reconstruction, rénovation, reconstruction, qui sont des marqueurs de ces aspects. Mais ça serait pareil, on irait à Moscou, la cathédrale du Christ Sauveur, elle a été reconstruite récemment, hein, et mise en avant et réhabilitée. Donc je crois que c'était... Cette cathédrale du Christ Sauveur, c'était en fin de compte la célébration d'une victoire sur Napoléon, hein, je vous le rappelle. Mais voilà, ça a été... tout le monde y a mis du sien, à part Staline qui a construit une piscine à la place. Mais ensuite, on est revenu et on a reconstruit.
Il faut dire, Claude Ruiz, que ces différents lieux sont toujours renforcés aussi parce que invoque l'histoire et ce que l'histoire écrit.
Oui, je crois que c'est ça, c'est l'histoire des sociétés. Alors, on se rapproche plus ou moins de l'histoire, mais certaines ont de très fortes épaisseurs du temps à partir du moment où il y a une présentation et des reconstructions permanentes.
Eh bien, merci Claude Ruiz d'avoir été avec nous ces derniers jours, de nous avoir éclairé sur ces différents sujets. On vous dit à très bientôt, Claude.
Au revoir.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
On vous avait promis dans le magazine des vacances mercredi de retrouver une nouvelle fois Lise Renard pour parler cinéma. Après David Fincher, c'est Wes Anderson qu'elle met à l'honneur ce vendredi soir. Bonjour Lise.
Bonjour Alexis.
Nouvelle chronique cinéma avec vous aujourd'hui.
Oui, en effet. Le 21 février 1996, le premier film de Wes Anderson, Bottle Rocket, une étrange chronique criminelle pince sans rire, sort aux États-Unis dans un circuit anémique de 49 salles. Les résultats au box-office font peine à voir, avec $560 000 de recettes. Mais 4 ans après sa fugace sortie en salle, Bottle Rocket trouve en Martin Scorsese un partisan inespéré. Il dit « Un film qui m'a pris par surprise ». Sans la moindre once de cynisme, il est l'œuvre d'un artiste qui aime ses personnages et l'espèce humaine en général, quelque chose de rare. Il possède le talent unique de saisir à l'écran les joies simples de l'existence et les interactions entre les gens, une sensibilité unique au cinéma. Quand j'ai découvert Rushmore, j'y ai trouvé les mêmes qualités, cette même tendresse, cette même grâce. Ils sont à la fois très drôles et très émouvants. Fin de citation. Donc Wesley Wells Anderson, dit Wes Anderson, est un réalisateur et scénariste américain. Il vient au monde le 1er mai 1969 à Houston. Il fait son éducation culturelle en lisant « L'attrape-cœur » de Salinger, « Stuart Little » de Elwin Brooks ou encore « Les Back Four » d'Ellen Cresswell. Mais aussi en écoutant Elton John et en regardant « La Panthère rose » avec Peter Sellers, « La guerre des étoiles »,« Fenêtre sur cour » d'Alfred Hitchcock ou encore « Rosemary's Baby » de Polanski. Il fait des études de philosophie à l'Université du Texas, à Austin, où il rencontre Owen Wilson, un étudiant en anglais, avec qui il découvre une passion pour le cinéma. Un objectif commun les réunit, faire des films. Personnellement, dès le premier film que j'ai vu de Wes Anderson, j'ai senti un attachement indescriptible se former en moi pour sa sensibilité hors du commun et loufoque. Le travail cinématographique est visuellement sublime. Le choix des couleurs, des paysages, des costumes, des lumières et de la symétrie provoque un émerveillement permanent chez le spectateur. Il a toute son attention. Ce Grand Budapest Hotel, sorti en 2013, est un exemple phare de cette esthétique. C'est un réalisateur minutieux qui accorde une grande importance aux détails et qui aime réaliser ses films à la manière d'un roman découpé en chapitres. C'est le cas dans The French Dispatch, sorti en 2020, où il découpe son film en quatre parties. Le journaliste cycliste, le chef-d'œuvre en béton, correction sur un manifeste et la salle à manger privée du commissaire de police. L'imagination de Wes Anderson est absolument débordante et remarquable. Je reconnais en lui des traits de Roald Dahl, car ils ont tous les deux une imagination absurde et énigmatique, où les personnages sont tous plus fous les uns que les autres. C'est d'ailleurs dans Mr. Fantastic Fox, sorti en 2009, qu'il reprend le roman comique, poétique et onirique de Roald Dahl sous forme d'animation avec des poupées animées à la main, image par image. On s'attache aussi très vite à ces acteurs fétiches qui reviennent à répétition, comme Bill Murray, Owen Wilson, Adrien Brody, Tilda Swinton, Edward Norton ou Léa Seydoux. Wes Anderson se révèle au monde du 7e art en proposant un style unique, appelé selon lui le mélancomique. On est perpétuellement dans une sorte de fascination à la fois délicieusement euphorique et amèrement perturbante. Sa capacité de créer des histoires aigre-douce qui mélangent tendresse et noirceur est impressionnante, car si son univers paraît tendre, le ton est parfois faussement enfantin. Dans La famille Tenenbaum, sortie en 2001, son œuvre est traversée par les drames de la vie, l'abandon, le suicide, la perte des illusions, etc. Il dit sur La vie aquatique, sortie en 2004, qu'en dépit de sa légèreté et de sa fantaisie, il relate des événements qui en soi n'ont rien de très drôle. Ils sont même parfois dramatiques, assez sérieux. La musique a aussi une place très importante chez Wes Anderson. Elles sont toujours différentes d'un film à un autre. Et comme vous avez pu le constater à travers les différents extraits qu'on a pu mettre dans cette chronique, elles leur ressemblent infiniment. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que l'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle chronique.
Merci Lise, à très bientôt peut-être pour de nouvelles découvertes qui plaisent toujours autant à Fabrice. On est ensemble jusqu'à 19h.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Petite leçon de vocabulaire avec Robert Reverger qui présente le mot justice au micro de Jean-Pierre.
C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous proposez un mot, de quel mot s'agit-il ?
Eh bien, comme vous l'avez dit, il s'agit du mot justice.
Quelle est son étymologie ?
Eh bien, de même que juge, jugé, juré, juridique, justice remonte à jus, c'est-à-dire le droit en latin, droit qui est lié à la parole qui l'exprime. Alors dire le droit, justicere en latin, a donné le verbe judicare, d'où vient juger.
Alors c'est vrai que comme beaucoup de mots, il faut dire, Robert, justice a de nombreux sens, de nombreux synonymes, chacun apportant une nuance, par exemple droiture, équité.
Ou encore impartialité, intégrité, probité, légalité. Voilà, en résumé, la justice est à la fois un principe juridique et moral qui permet de juger nos comportements, de les approuver ou de les rejeter, au regard soit de la morale, soit du droit.
Vous avez un exemple ?
Oui, par exemple, il y a quelques années, aux yeux des lois, accueillir un réfugié sans papier était un délit.
Ce qui, comme vous l'avez dit la semaine dernière, était passible d'ailleurs d'une forte amende, voire d'une peine de prison.
Exactement.
Ce qui n'empêchait pas certaines personnes d'ailleurs de le faire. On avait des exemples.
Hein. Tout à fait. Certaines personnes le faisaient en violation de la loi, donc, considérant que la morale, l'humanité et la charité devaient prévaloir sur le droit. Il y avait donc là deux visions opposées, de la morale et de la justice. Autrement dit, ce qui paraît moral n'est pas forcément légal et réciproquement.
Alors aujourd'hui, accueillir un réfugié n'est plus un délit.
Non, depuis 2012.
Quelles sont les conditions pour que la justice, au sens juridique du mot, s'instaure et soit acceptée ?
Eh bien, on peut en compter quatre. Comme je vous le disais au début de l'émission, il faut d'abord justicere.
Alors, dire le droit.
Dire le droit, ce qui est l'affaire des juristes.
Deuxième condition, Robert, condition.
Oui, il faut l'appliquer, ce que doit faire le juge. Il est donc préférable et nécessaire que le droit soit reconnu par la société. On parle aujourd'hui d'état de droit. Et parmi les conditions pour qu'une véritable justice s'instaure, on peut en ajouter une troisième, tout aussi impérieuse
mais
d'ailleurs.
Laquelle, Robert, vous mettez en appétit, vous nous dites qu'il y a une troisième, on ne sait pas laquelle.
Mais je vais vous le dire, pour que la justice ne puisse pas être remise en cause, elle doit être basée sur l'un des trois principes fondamentaux de la République, c'est-à-dire le principe d'égalité devant la loi, faute de quoi les citoyens pourraient approuver ce que dénonce La Fontaine, pour qui, selon que vous serez puissant ou misérable,
des jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Oui,
c'est ça, hein, le
tout
poème.
À fait, c'est ça. C'est la morale de la fable « Les animaux malades de la peste ». Alors, cela dit, sommes-nous certains qu'aujourd'hui, La Fontaine pourrait écrire « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront de la même couleur ». La question peut être posée.
Alors, revenons aux conditions sine qua non pour instaurer une justice véritable. Quelle est la quatrième, puisque vous êtes quatrième?
Il s'agit d'une condition nécessaire au pouvoir démocratique, telle que d'ailleurs le définit Montesquieu, à savoir la séparation des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Alors, le pouvoir judiciaire doit impérativement être indépendant des deux autres pouvoirs, faute de quoi il risquerait de donner encore raison à ce bon La Fontaine.
Alors, après le volet juridique du mot justice, disons quelques mots de son volet moral, qui nous concerne tous. Comment définir ce qui est juste?
Oula, c'est une vaste question, parce que, comme vous le disiez au début, le mot a de nombreux synonymes.
Vous avez quelques exemples?
Oui, par exemple, pour Robespierre, rien n'est juste que ce qui est honnête, et juste ce qui est équitable. Pour Chamfort, par exemple, il faut être juste, au sens équitable, avant d'être généreux. Et juste, par exemple, ce qui est impartial, ce qui est fondé, légitime, approprié. Voilà, à mon sens, les principaux synonymes du mot dans son sens moral.
Ce concept de justice a été mis en lumière par de nombreux philosophes. Ils ont principalement tenté de répondre à deux questions. Existe-t-il une justice sur cette terre? Et puis, que représente-t-elle cette justice?
Ben oui, au point que les citations concernant ce mot sans justice.
Alors je ne doute pas que vous allez nous en présenter quelques-unes de ces citations.
Oui, excusez-moi, là-dessus, j'ai dit sans justice, il fallait dire sans nombreuses. Alors, Blaise Pascal, par exemple, a écrit « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ». Alors, de Blaise Pascal encore, « Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force ». Pour Tite-Live, la justice, la bonne foi et la droiture doivent être le fondement de la politique. Et enfin, pour finir sur une pointe d'humour un peu acerbe, de Jules Renard, la justice est gratuite, heureusement, elle n'est pas obligatoire.
Le 10 janvier, vous serez à nouveau en direct, Robert, et alors quel est le mot que vous utiliserez cette semaine-là?
Je parlerai du mot immigration.
En pleine actualité. Merci Robert, à très bientôt sur RCF.
Merci Robert, merci Jean-Pierre, et sans transition ou presque, on parle écologie. Gaïa et Gabin sont avec Jeanne Boudre dans Parole de Jeunes.
Bonjour et bienvenue dans Parole de Jeunes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gabin et Gaïa pour parler d'écologie. Bonjour Gabin.
Bonjour.
Bonjour Gaïa.
Bonjour Jeanne.
Pourquoi est-ce que l'écologie c'est important pour vous et à quoi ça sert?
Je pense que l'écologie c'est surtout respecter la nature, respecter notre environnement. Le connaître aussi, ça passe par l'éducation. C'est des bonnes pratiques au quotidien et c'est des petites choses qui ont des gros impacts en fait. Tout le monde peut agir de son côté pour l'écologie.
Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour être plus écologique?
Déjà, à l'échelle de chez soi, on peut aider sa famille à trier les déchets d'une autre manière. On peut demander aux gens d'éteindre les lumières ou de faire attention à leur consommation d'eau, d'électricité, mettre les douches moins chaudes, faire aussi un potager. Et si jamais du coup on en a déjà un, faire un arrosage goutte à goutte qui est moins consommant en eau et qui permet déjà d'une de pas s'occuper du jardin tout le temps. Donc c'est un gain de temps, mais aussi de pouvoir consommer moins d'eau.
Quelque chose à ajouter, Gabin ?
Oui, par exemple, sur le tri des déchets, on sait que ici au lycée, c'est une cause qu'on aimerait agir plus particulièrement, notamment le tri des déchets en plastique, acheter dans un compost et mettre les déchets alimentaires. Peut-être aussi réduire la consommation de viande et aussi, quand c'est possible, utiliser les transports en commun ou les mobilités douces, comme le vélo, la trottinette. Ça pollue toujours moins que venir en voiture. Ou même si on peut venir que en voiture, utiliser le covoiturage. Et justement, c'est peut-être aussi le rôle de nous, les jeunes générations, à éduquer tout le monde, parce que nous, on va vivre un monde qui va peut-être être un peu plus pollué qu'aujourd'hui en fait, et on va souffrir de ça je pense dans les années à venir.
Quels sont les projets que vous avez mis en place ou que vous voudriez mettre en place pour lutter contre la pollution et les changements climatiques?
Alors l'année dernière j'ai été éco-déléguée à Jean Jaurès et malheureusement c'était la première année depuis le Covid qu'en fait ils ont repris les éco-délégués en main. Donc très peu de projets ont pu être mis en place depuis, mais certains ont commencé à être créés ou en tout cas on a essayé de voir tout ce qui était dans le domaine du possible par rapport au lycée et les demandes qu'on peut faire. Donc pour le moment très peu de choses ont pu être mis en place, mais certains projets ont commencé à être créés, comme par exemple aussi la création d'un club, parce que être éco-délégué c'est on est élu. Pourquoi être élu quand on veut participer au bien-être du lycée? Donc un club a été créé pour justement permettre aux gens d'apporter leur soutien et d'apporter des actions sans forcément être élu. Donc ça c'est déjà un bon point, mais pour le moment c'est cette année que beaucoup va se jouer.
Gabin?
Concrètement, nous, cette année, on aimerait, par exemple, agir sur le tri des déchets en classe. On sait qu'il n'y a qu'une seule corbeille à déchets et on mélange tous nos déchets. Pourquoi pas mettre deux corbeilles, une corbeille recyclable et une corbeille ménagère. Aussi, on aimerait réduire le nombre de déchets en cantine. Quand on jette nos déchets, on paye justement ce recyclage et du coup, ça va se répercuter sur la qualité de nos aliments. Donc, si on gaspille moins, on pourrait manger mieux. Aussi, on aimerait peut-être favoriser le vélo, pouvoir organiser des stages pour réparer justement le vélo, réparer une roue qui est crevée. On a plein de projets comme ça et on va voir ça justement cette année au lycée. Après aussi, personnellement, je me suis engagé dans un projet. Donc, on a fait Vitry-les-Reims-Rethel à vélo pour montrer qu'on n'était pas obligé de prendre sa voiture. Et ça nous a fait bien rigoler, ce projet-là. Et ça montre que, en fait, c'est extrêmement simple de prendre son vélo. Et en plus, on a fait du sport et c'était super rigolo.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes les personnes qui considèrent que l'écologie est inutile?
Alors déjà, rien n'est inutile. L'écologie, c'est quelque chose qui peut être vraiment considéré comme important parce que c'est quelque chose qui est dans le domaine de la santé. Si on ne fait pas attention à ce qu'on consomme, à comment on trie les choses et à notre émission, par exemple, de CO2, en fait, c'est notre santé et la santé des autres qui est en jeu et aussi la santé des générations qui vont suivre. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être ignoré. C'est quelque chose qui est, je pense, très important dans le futur.
Quelque chose à ajouter, Gabin ?
Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Gaïa, mais surtout, je pense que ça va impacter tous les secteurs, même économiques. Il y aura un moment où on sera obligé de s'en soucier parce qu'on n'aura plus aucune solution. Et je pense qu'il faut agir sur l'écologie avant d'avoir des gros soucis. On sait qu'on en a déjà beaucoup aujourd'hui, mais il y en aura encore plus dans les années à venir. Et donc, il faut agir maintenant pour l'avenir.
Merci beaucoup, Gabin et Gaïa, de votre participation. C'est fini pour cette interview et à bientôt dans Parole de Jeunes.
Un générique qui finit une chronique, mais pas encore tout à fait l'émission. Juste temps pour moi de vous remercier de votre fidélité et de vous donner rendez-vous lundi avec de nouvelles actualités et surtout le retour du magazine régional, cette fois à 18h10. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde. Très bonne soirée, très bon week-end en compagnie des programmes de RCF.